et reclus.
Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes le 17 février 2011. Cette émission est enregistrée et sera diffusée donc jeudi prochain. Donc, avec tout ce qui se passe en ce moment dans les pays du Maghreb et ailleurs d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vérifie bien qu'on est le 17 février parce que ça risque de bouger entre-temps. Donc, depuis la dernière émission où nous parions de la révolution tunisienne vue de France, Moubarak a dégagé et Prune est arrivée. Nous l'embrassons très fort, ainsi que Fab et Hello.
Aujourd'hui, on est avec Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour.
On avait déjà fait une émission avec toi au moment du mouvement contre la réforme des retraites. Tu nous avais parlé un peu de comment il y avait des actions qui s'organisaient à Besançon. Et aujourd'hui, avec toi, on va évoquer un peu le souffle révolutionnaire qui balaye un peu le Maghreb et le Moyen-Orient et un peu toute la zone du monde arabo-musulman. Parce que toi, tu es militant politique et tu connais un peu particulièrement l'Iran.
Oui, parce que je milite à l'Initiative communiste ouvrière, qui est un petit groupe en France qui se réclame du communisme ouvrier, qui est un courant qui est essentiellement présent en Iran et en Irak. Et je travaille en grande partie avec les camarades du Parti communiste ouvrier d'Iran.
Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur... Enfin, on ne va pas faire l'émission là-dessus, mais sur le communisme ouvrier, ce courant, parler de Mansour Hekmat.
Oui, bon, je vais dire vraiment que deux mots, puisque l'émission est plus sur l'actualité que sur la théorie. Après la défaite de la révolution, enfin, pendant la révolution de 79 en Iran, qui a chassé le Shah, qui a été une révolution populaire, ouvrière, où il y a eu des shoras, des conseils d'ouvriers, des tas de choses intéressantes qui se sont faites. Il y a eu une contre-révolution terrible qui s'est abattue, c'est l'instauration de la République, avec l'instauration de la République islamique. Et en fait, la gauche iranienne à l'époque, comme une grande partie de la gauche mondiale ou même de l'extrême gauche, était avait à la fois une absence de perspective politique pour le pouvoir de la classe ouvrière et la transformation de la société, et du coup voulait soutenir la bourgeoisie dite progressiste, nationale, anti-impérialiste, etc. Et une grande partie s'est retrouvée plutôt à se mettre derrière Khomeini au nom de l'anti-impérialisme. Et le courant du communisme ouvrier, Mansour Hekmat, à l'époque, militait dans un petit groupe qui s'appelait l'Union des militants communistes à Téhéran, a très vite critiqué ses conceptions, a analysé en fait ce qui s'était passé en 79, et dans une période qui était aussi toute la lutte qu'il y avait au Kurdistan dans les années 80, a essayé de mettre en place une nouvelle organisation qu'il a appelée le communisme ouvrier, tout simplement parce que la base, c'est de dire que quand Marx a fait son manifeste du Parti communiste, il appelait communisme le socialisme prolétarien en différence avec les autres socialismes portés par d'autres classes, et que le terme de communisme pendant le XXe siècle a été utilisé par des courants qui avaient rien à voir avec la classe ouvrière, comme la bureaucratie stalinienne en URSS, comme des courants nationalistes de gauche, etc., pour réaffirmer le lien du communisme avec la classe ouvrière comme perspective politique de la classe ouvrière pour foutre en l'air le système capitaliste et amener l'émancipation de l'humanité.
D'accord. Ouais, c'est super intéressant en fait. Et donc tout ça, ça vient de la contre-révolution iranienne. C'est un peu ça l'origine, quoi.
C'était l'origine théorique, mais on peut dire que ça peut venir d'ailleurs. Hein, le communisme, c'est pas Marx qui l'a inventé, c'est quelque chose qui est né des luttes des travailleuses et des travailleurs au départ en Europe et puis après dans le monde entier face à l'exploitation capitaliste. Et Marx, il a théorisé ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc je pense que la radicalité de la révolution en Iran en 78-79, le fait que la gauche et l'extrême gauche iranienne, mais aussi internationale, avaient aucune réponse ou avaient des difficultés de trouver des réponses, a fait que dans ce contexte-là, il y a eu des réflexions politiques assez poussées en Iran, comme souvent. Hein, Marx, par exemple, il a théorisé ce qu'était l'État ouvrier et tout ça après la Commune de Paris. Les événements importants dans la lutte de classe aident à avancer, à clarifier certaines choses au niveau théorique.
Est-ce qu'il ne faut pas commencer par parler justement de la situation en Iran, avant même qu'il y ait une journée de manifestation? C'était il y a 2 jours, je crois.
C'était mardi. Mardi 14 février.
C'est-à-dire que c'était le 14 février. Il y a l'actualité en Iran, l'actualité sociale et politique, c'est une grosse, grosse répression.
Oui, alors là, énormément, une intensification de la répression après le mouvement révolutionnaire qui avait traversé tout l'Iran en 2009 jusqu'aux manifestations insurrectionnelles de décembre 2009, celle de l'Ashura. L'Ashura, c'est une fête religieuse, mais ça avait été transformé en véritable scène de manifestation, d'insurrection quasiment sur Téhéran, avec des groupes de manifestants qui cherchaient à désarmer les forces de répression, qui ont réussi à certains endroits d'ailleurs. Le régime, pour survivre, a lancé vraiment une très très forte campagne de répression et en particulier d'exécution, le début de l'année 2011, puisque selon Amnesty International, rien qu'au premier mois, donc en janvier 2011, il y a eu 80 exécutions et on est à une moyenne d'une exécution toutes les 8 heures, si on fait une moyenne, dedans beaucoup de prisonniers de droit commun et aussi pas mal de prisonniers politiques. La dernière en date, c'est Sarah Bahrami, qui est citoyenne irano-néerlandaise, qui avait été arrêtée justement après les manifestations de décembre 2009 et qui a été exécutée le 29 janvier 2011 à Téhéran, à la prison Evin. Donc une très très forte répression, et à mon avis, le mouvement de 2009 qui a fait peur au régime, mais aussi ce qui s'est passé en Tunisie dès la fin du mois de décembre et tout ce mouvement qui se développe dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient contre les dictatures. En fait, il y a exactement les mêmes éléments en Iran. Il y a le système dictatorial, bien sûr, comme en Égypte et ailleurs, la corruption, et aussi les mêmes attaques contre la classe ouvrière et contre la population en général, enfin en particulier les classes populaires, puisque en Tunisie, ça avait démarré sur les questions du chômage, avec l'immolation par le feu d'un jeune chômeur. Et en Iran, il y a aussi un taux de chômage énorme, et il y a aussi eu ce qu'on voit apparaître partout, des protestations comme en Algérie par exemple ou en Égypte sur la hausse des prix. À la fin de l'année 2010, le régime a commencé à supprimer les subventions sur des produits comme l'essence et les produits de première nécessité, ce qui veut dire une hausse des prix et donc une baisse du niveau de vie de la population dans un pays où, sans même parler du chômage, on a le salaire minimum, pour donner un exemple, quand ils sont payés, parce qu'il y a beaucoup de protestations dans les usines en Iran en ce moment, justement pour le paiement des salaires. Le salaire minimum, il est à un équivalent de $300, alors que le seuil de pauvreté en Iran, il est fixé à 900. Voilà, ça donne une idée du niveau de vie ouvrier moyen dans ce pays.
J'ai lu un article de la presse courante, quoi, sur un peu le lien qui était fait avec des émeutes de la faim, en disant que on retrouvait un peu les mêmes problématiques à laquelle se rajoutait donc une exigence démocratique, quoi.
Oui, on a les deux. On a les exigences de liberté, mais moi je dirais quelque chose de plus profond que les émeutes de la faim. Parce que les émeutes de la faim, justement, c'est des émeutes, donc c'est des gros coups de colère, mais qui sont très limités dans le temps. Et là, si on prend par exemple l'Égypte, on a un mouvement qui a duré 18 jours jusqu'au départ de Moubarak, et qui continue, et qui touche, qui n'est pas que des émeutes de la faim, en Tunisie aussi, avec beaucoup de grèves, pour les salaires, des grèves ouvrières, et qui touche des secteurs, là pour l'Égypte, par exemple, très importants, de la classe ouvrière égyptienne. Le textile, l'industrie pétrolière, et ce qui fait, à mon avis, particulièrement peur à la bourgeoisie mondiale, c'est aussi les ouvriers du canal de Suez, puisque eux, s'ils se mettent en grève et s'ils bloquent l'accès au canal de Suez, en fait, ils bloquent toute une partie du marché mondial, en particulier toutes les exportations qui viennent du Moyen-Orient, dont le pétrole, à destination de l'Europe. Et donc je trouve que c'est presque plus profond que les émeutes de la faim. Il y a un élément... Bien sûr, hein, c'est tout à fait comparable. En Algérie, c'était les émeutes sur le logement, les émeutes contre la hausse des prix et tout ça. En Tunisie, en Égypte, ailleurs, il y a quelque chose d'encore plus profond, puisque ça s'organise. Les émeutes, je dirais presque par définition, elles restent à un côté peu organisé, tout à fait spontané. Mais en Égypte, par exemple, il y a eu la création, un peu avant la chute de Moubarak, d'une nouvelle confédération syndicale très... enfin, pas justement qui s'opposait à la bureaucratie du syndicat officiel lié au régime et puis à Moubarak, la création de comités populaires, des grèves. Je trouve que c'est quelque chose qui est plus profond, plus sur la durée qu'une simple émeute qui peut être très dure, très violente, mais assez facile à réprimer. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et qui s'étend pour l'instant dans quasiment tous les pays du Maghreb et du Moyen-Orient.
Ouais, justement, à propos de ce que tu dis, on a un manifeste des métallos de la ville sidérurgique d'Elouane, en Égypte, qui a organisé une marche le 11 février. Donc, c'est le jour où Moubarak a dégagé. C'était la marche jusqu'à la place Tahrir. Donc, il y a 6 points pour ce manifeste. On va le lire. Et puis, ça montre un peu, justement, que ça va plus loin que des simples émeutes de la faim. C'est que ça, il y a des exigences qui ont une portée révolutionnaire, quoi, qui sont plus profondes.
Alors, petit 1. Le départ immédiat du pouvoir de Moubarak et de tous les représentants du régime et la suppression de ses symboles. 2. La confiscation au profit du peuple de la fortune et des propriétés de tous les représentants du régime et de tous ceux qui sont impliqués dans la corruption. 3. La désaffiliation immédiate de tous les travailleurs des syndicats contrôlés par le régime, ainsi que la création de syndicats indépendants et la préparation de leur congrès afin d'élire leurs structures organisationnelles. 4. La récupération des entreprises du secteur public qui ont été privatisées, vendues ou fermées et leur nationalisation au profit du peuple, ainsi que la formation d'une administration publique pour les diriger, avec la participation des travailleurs et des techniciens. 5. La formation de comités pour conseiller les travailleurs dans tous les lieux de travail et pour superviser la production pour la fixation et la répartition des prix et des salaires. 6. Convoquer une assemblée constituante représentant toutes les classes populaires et tendances afin d'approuver une nouvelle constitution et élire des conseils populaires sans attendre le résultat des négociations avec le régime actuel. Donc ça, c'est signé par la LCR de Belgique, c'est dans ce communiqué-là.
Et c'est là-dessus qu'on a trouvé ce texte, oui.
Voilà.
C'est pas mal, non, comme programme, Pascal ?
C'est pas mal, oui. C'est comme dans tous les mouvements révolutionnaires. Hein, on voit que les travailleuses et les travailleurs, ils essayent d'élaborer un programme un peu indépendant. Bon, c'est vrai que le côté constitution avec toutes les classes, c'est classe populaire. Je sais pas exactement ce qu'ils entendent par là. Mm-hmm. Mais il y a même des points qui sont des points de contrôle ouvrier. Quoi. C'est que les travailleurs puissent contrôler les patrons sur la fixation des salaires, sur les conditions de travail. Mm-hmm. On voit qu'il y a la création, il y avait en Tunisie aussi la création de comités populaires, comme en Égypte, d'abord pour se défendre face aux voyous, aux brutes payés par le régime et aux forces de répression. Et dans ce mouvement-là, il y a des tas de revendications qui s'élaborent et des formes de pouvoir populaire ou ouvrier qui ont tendance à se créer. Et c'est quelque chose qu'on voit qu'on a pu voir presque dans toutes les révolutions, je crois, du XXe siècle, même un peu avant avec la Commune de Paris. Et c'est des choses vraiment intéressantes. Et je crois que le mouvement profond qu'il y a là au Maghreb et au Moyen-Orient, quelque part, il y a un contexte particulier de pays avec des vieux dictateurs que les gens supportent plus depuis des années, corrompus et qui montrent leur corruption au monde entier. Mais c'est aussi des revendications qui intéressent, les travailleuses, les travailleurs, les exploités du monde entier, au-delà, même au nord de la Méditerranée, où là aussi on subit les attaques du capitalisme et où la vie, pour beaucoup de gens, devient de plus en plus difficile, voire même insupportable. La dernière fois, on avait parlé sur le mouvement des retraites, je crois, de la souffrance au travail et des salariés qui se flinguent sur leur lieu de travail en France parce qu'ils n'en peuvent plus.
D'ailleurs, en Tunisie, tout a démarré avec l'immolation, c'est-à-dire le suicide par le feu d'un diplômé qui était au chômage et qui survivait en vendant en étant vendeur à la sauvette dans la rue, quoi. Donc, quand on parle de souffrance au travail ici, il y a même une souffrance basique de vie quotidienne. Voilà, c'est ça le départ de...
De survie.
Oui, mais des souffrances, alors c'est pire, au sud de la Méditerranée, au Maghreb ou au Moyen-Orient. Les conditions de vie sont encore bien pires. Mais j'avais lu les propos d'un émeutier de Bab El Oued, c'est le quartier populaire d'Alger. Bon, qui disait en gros de cette vie-là, cette vie-là nous la supportons plus et nous ne la voulons plus. Quand il y a eu des émeutes qui avaient éclaté en Algérie en même temps que le début du mouvement révolutionnaire en Tunisie, qui ont touché tous les quartiers populaires d'Algérie. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, c'est un cri du cœur qui pourrait être crié aussi par des chômeurs ou par des salariés. Il y a, je crois, un quart des salariés en France qui sont en dessous du seuil de pauvreté.
Tout à fait.
Les 4 millions de familles qui ont été expulsées aux États-Unis, par les ouvriers de Chine, par celles du Bangladesh, enfin, du monde entier, quoi.
C'est ça, cette souffrance-là, elle est internationale aussi.
Oui, la souffrance, elle est internationale, mais ce qu'il y a d'intéressant avec l'Égypte et la Tunisie et les autres pays qui commencent à s'enflammer, Yémen par exemple, ou même Bahreïn, il y a des protestations prévues en Algérie, il y en a au Maroc, on reviendra peut-être aussi sur celle qu'il y a eu récemment en Iran.
En Jordanie aussi.
Oui, en Jordanie, en Libye aujourd'hui, je crois que c'était hier aujourd'hui, il y a eu des manifestations en Libye. Ça montre aussi une porte de sortie, ça montre que la souffrance elle est internationale, mais il y a aussi par la lutte radicale, résolue, révolutionnaire. Aussi comme ça qu'il y a une porte de sortie possible de cette souffrance, parce qu'on a aujourd'hui largement les moyens d'offrir une vie décente et correcte à l'ensemble de l'humanité.
C'est clair. Pour faire la liste un peu de justement des mobilisations de ces derniers jours, donc on répète qu'on est le 17 février aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des manifestations en Libye qui ont été réprimées. Il y a eu 4 morts la nuit dernière. Donc c'est Al-Baïda et Benghazi surtout, les deux villes où... Voilà. J'ai vu qu'en Jordanie, il y a une grève illimitée des enseignants à partir d'aujourd'hui. À Riyad, il y a des ouvriers du bâtiment, donc c'est des populations asiatiques qui sont en grève aussi depuis hier. 1500 ouvriers en grève dans le bâtiment. J'ai vu, donc à Bahreïn, c'est un petit pays du Golfe persique. Il y a eu une tentative de faire un remake de ce qui s'est passé au Caire en occupant une place de la ville. Donc l'occupation a duré 2 jours et cette nuit et ce matin les blindés ont repris la place et ont quadrillé la capitale, Manama. Pareil avec une répression sanglante. Donc on a dit qu'en Iran il y avait eu aussi une journée de manifestation le 14 février qui s'est soldée par 2 morts, je crois, et voilà. Il y a le Yémen aussi où il y a des manifestations quotidiennes de toute cette semaine là. Donc après on sait pas exactement dans chaque pays Dans quelle mesure c'est des jeux d'opposition politique un peu à la surface, ou si c'est plus profond que ça, quoi?
À mon avis, il y a parfois les deux, où l'opposition... Lénine, il disait en gros qu'une crise révolutionnaire, c'est quand ceux d'en bas, ils veulent plus être dirigés comme avant, et quand ceux d'en haut n'arrivent plus à diriger comme avant. Et parfois, les mouvements populaires, enfin qui viennent vraiment de la base, ouvriers même, peuvent renforcer les crises qu'il y a à la tête du régime, où en fait chacun essaye de sauver le régime avec des stratégies complètement différentes. Pour revenir sur l'Iran, ça a été un bon exemple quand même, les protestations qu'il y a eu mardi dernier dans plusieurs villes, en particulier à Téhéran, mais aussi à Kermanshah, à Shiraz, et dans d'autres villes, là, j'ai les noms au bout de la langue. Bon, la République islamique d'Iran, elle avait essayé de jouer un peu sa propagande par rapport aux révolutions en Tunisie, en Égypte, en disant voilà ce que les gens y veulent, c'est la charia et la République islamique. Et en fait, mardi, la population d'Iran, elle y a répondu en disant au Caire comme à Téhéran, mort au tyran, Moubarak Ben Ali est maintenant autour de Saïd Ali, c'est-à-dire en faisant référence à Khamenei, en criant beaucoup, beaucoup mort à Khamenei, Marbak à Khamenei. Khamenei, c'est le leader suprême de la République islamique qu'on n'a normalement pas le droit de critiquer, puisque il est une espèce d'incarnation du clergé, voire même de Dieu, d'après les mollahs au pouvoir. Donc c'est aussi des protestations assez radicales, même très très radicales vis-à-vis du régime. Et la question, c'est effectivement, je pense que la bourgeoisie, à la fois les bourgeoisies nationales et la bourgeoisie internationale, face à ces protestations, elle va aussi jouer, ou elle joue le jeu d'essayer de trouver des opposants qui lui permettent de maintenir en place le système et sa domination.
Donc sur l'Iran, il y a quelle perspective à l'heure actuelle?
Les perspectives, c'est que vu la violence de la répression, c'était pas gagné qu'il y ait de nouveau une forte mobilisation mardi, et pourtant elle a eu lieu. Là, le régime parle de renforcer encore les exécutions, renforcer la terreur et la répression. Ils s'en prennent même aux responsables de l'opposition officielle, hein, comme Moussaoui et Karoubi, qui sont pas des opposants à la République islamique, qui sont des membres qui ont toujours fait partie des dirigeants du régime, qui proposent juste de lâcher un peu de lest sur certains points pour maintenir en place le régime. Hein. Moussaoui, par exemple, il a été ministre à une époque où le nombre d'exécutions dans les années 80 était encore plus important qu'aujourd'hui. Et son discours pendant les élections, c'était en gros retournons au bon vieux temps de Khomeini. Hein, c'est pas du tout un opposant au système en place. Mais même eux ont été menacés par certains parlementaires les plus durs du régime d'exécution. Donc il y a quand même ce contexte de répression, mais on a bien vu mardi que la population, on a toujours autant ras-le-bol de la République islamique. Et ce qu'il y a, et qui peut changer la donne, c'est qu'il y a une colère qui monte dans les usines, dans les lieux de travail, en particulier pour le paiement des salaires. Il y a eu plusieurs protestations dans ces derniers jours, dans le bâtiment à Tabriz, dans la métallurgie à Karaj, à côté de Téhéran. Il y a eu des grèves spontanées, assez dures, à Iran Khodro. C'est une entreprise d'automobile, c'est la plus grande entreprise automobile du Moyen-Orient, après un accident de travail qui a fait 10 morts chez les ouvriers. Il y a vraiment une colère qui est là. Qui peut exploser à tout moment, surtout avec la hausse des prix, avec tout ça. Et on voit en Iran et ailleurs les régimes qui s'inquiètent, avec des pays comme le Koweït qui, peu après la chute de Ben Ali, ont baissé de façon importante les prix de l'alimentation. Je crois qu'il y a eu la même chose en Libye et en Jordanie. Au Yémen, le gouvernement a augmenté les salaires de la fonction publique, qui sont passés de 40 à $200, pour essayer de calmer les mécontentements populaires. Donc on voit bien Qu'il y a d'un côté un espoir qui se développe chez les masses, chez les ouvriers, chez les employés, les chômeurs et la population en général, et de l'autre il y a une inquiétude qui commence à toucher tous les dictateurs de cette région du monde pour l'instant, et aussi je pense leurs alliés et soutiens occidentaux. Je pense à Ben Ali qui a toujours été soutenu par l'impérialisme français, oui. Ou à Moubarak qui était quand même soutenu par les États-Unis.
Voilà, c'est ça aussi. Mais il y avait une blague qui sortait chez des manifestants qui disaient « Moubarak, où t'es, Ben Ali te cherche aussi ». Mais là, c'est pour faire un peu d'humour.
قاعد حاير من سوالك يا صاحبي العزيز توقعنا مظاهرات ما شفنا غير التنقيز شنو تقول يا بن ثابت على قلوب الشعب هل مازال في امل في طموح الشعب هل سيقاوموا الاعداء زي ما قاموا جدودنا هل سيضحوا زي ما ضحوا في غرب حدودنا هل لازال في الكرم والشجاعه في قلوبنا ولا بنناقفوا بعضنا باش نعبوا جيوبنا نبي تبي ردي ولا تبي رد الناس انا ما يعرف الا ربي نعيش انا قداش تبي الراي المعاكس ما عندي الا عساس صفي هالك زي اللي ينزل من قصعه الكسكاس أول حاجة يقولك راه واحمد ربك كانك حي حامد ربي لو مش النفط البلاد ما فيها شيء ويمكن هكي خير باش يقلبوها على راسها زي ما دار في تونس تحية هذه خاصة على الأقل عنا خبزة والخبز رخيصة صوم دم الشهيد ما تقدرش تقيسه شنو عذرك تستنى في سيدنا عيسى والدولة اللي جنبنا لزت رئيسها قال لي أني فهمتهم بعد ما شتمتهم يا معمر راهو شعبك ما عمرك ما خدمتهم يا معمر راهو خيلك تعتزل التوب ما هو يا معمر مستحيل الهروب الانتقام بيجيك زي القطار في الحيط حنغرقوك في مادة جيب غلي الزيت باش تعرف شو هذا بوسليم كيف صيحوا لين يشوفوك في الجحيم مش حيستريحوا نقسم بالله اللي خلقك وخلقنا معمر نهايتك والله نقربنا 90% منا راهو غضبناش يوم الباقي حي ريت نهربنا مش حيفيدكم فلوسكم لما نقطعوا روسكم في اليوم اللي حيتلاقوا جيوشنا وجيوشكم النوشكم باش تسيبوا قبل ما تصير ما هو تبدا الثورة مش حتقدر تطير قصدي ثورة شعبية بمعنى الكلمة ما يندريش بقيته ما هو مستوى علمه يجيك على الميزان زيت تراب والفضة كان شاطر في شيء اسأل ممرضة تقول لك مليح في تحريف الأدلة أي حاجة تقولها صحتي يا للا هذا كلام الشلة اللي يموتوا على القرش التريس الحقانية يفوتوا القرش الرزق اللي خنبتوه البري اللي تلتوه والتلميذ اللي هملتوه كلهم توا حيجوكم ما عندكم وين تهربوا نعرف وجوهكم ما يستقبلكم حد حي على خشوكم رافعينهم توا الصادشين الكلاب عارفينكم توا ما تعرفوش العذاب لكن توا تعرفوه حطوا فلوسكم برا تجمدهم سويسرا لآخر مرة تستغنوا على الشعب ما يبوش يخدموه يا مسخين ما تعرفوش الا تخنبوه الرزق اللي تاكلوا فيه هذا نار هذا واضع زي شرف سيدي عمر المختار اللي مات على البلاد شوف احداث البلاد قداش من هالقرن هو فات البلاد قداش مليارات اللي نصرفوا في الفاضي قداش اللي عجبهم الا الفاضي ما يعرفني الا ربي وربي القاضي لما نهد على القياده اقعد لك غادي
Forêt reclue à l'Élysée, dans le monde entier, sur Internet, www.radiopérée203.com, et sur l'audioblog, où vous pouvez écouter, télécharger et diffuser les émissions, audioblog.arteradio.com/forêt-reclue-à-l'Élysée, tout attaché et sans accent.
Oui, toujours avec Pascal, donc pour parler du souffle révolutionnaire qui enflamme un peu le monde arabo-musulman en ce pré-printemps 2011. Après la Tunisie, l'Égypte, peut-être l'Iran ou un autre pays, quoi. Par rapport à l'organisation et à l'approfondissement de la crise révolutionnaire, en fait, j'ai un petit extrait d'articles qui parlent de comment à Redaïef en Tunisie, donc une ville minière, comment après une fois que le pouvoir d'État soit effacé, comment de nouvelles structures se mettent en place. Donc en fait, c'est apparemment le syndicat, la centrale syndicale UGTT, qui sert de contre-pouvoir et qui prend la relève du pouvoir officiel, on pourrait dire. Donc ce petit article là, il y a un passage qui nous parle de Redaïef, où le maire corrompu il est retenu chez lui dans l'attente de son procès, où la police et la plupart des autorités ont disparu, et où la ville, donc selon ce texte qui est le même que C'est le même site sur lequel on a trouvé le manifeste des métallos de la ville d'Elouane. C'est le site LCR Web Belgique. Ça nous dit que la ville elle serait autogérée par des conseils. Comme l'explique Adnan Haï, secrétaire général de l'UGTT de Redeyef dans des chroniques de la révolution tunisienne, entre guillemets, grâce à l'expérience de la lutte et de l'unité de ces dernières années, nous sommes parvenus à former des conseils dans tous les secteurs pour mobiliser la population dans la défense de ses droits et pour la gestion de sa vie quotidienne. Notre organisation syndicale sert aujourd'hui de colonne vertébrale à la mobilisation populaire. Évoquant la situation à une échelle plus globale, il souligne avec lucidité les limites et les défis du processus. Le problème est que l'impressionnante spontanéité de la révolution ne s'est pas cristallisée dans un projet politique, parce que malheureusement, le niveau d'organisation était et est toujours très faible dans le reste de la Tunisie. Mais je ne suis pas pessimiste, nous dit ce responsable syndical. Donc c'est difficile d'apprécier à quel point le syndicat est bureaucratisé ou à quel rôle a vraiment la base à ce niveau-là, quoi. Ce qui nous dit qu'il y a des forces et des personnalités capables d'articuler et de coordonner les politiques populaires. À Redeyef, donc ils sont en train d'établir une direction régionale unique avec d'autres villages de la région. Il y a des discussions et des contacts dans ce sens avec d'autres centres urbains où l'organisation est moins consolidée. Mais il ne faut pas oublier que les négociations et les accords entre les directions locales ne servent à rien si l'on n'est pas capable de convaincre et de mobiliser le peuple. La révolution est incomplète et nous ne pourrons la compléter qu'en combinant l'organisation et la mobilisation. Donc voilà pour ce texte qui date du 16 février.
T'en penses toi, Pascal, de ça?
Ben, ce que je trouve très intéressant, c'est quand il dit que la révolution, elle est incomplète. Là, ça parle de la Tunisie.
Ouais.
C'est aussi le cas pour l'Égypte. C'est qu'en Tunisie, la population, la révolution, elle a permis le départ de Ben Ali. Elle a permis le départ de ceux qui étaient le plus en vue du régime. Elle a permis de dissoudre le parti,
RCD.
Oui, le parti de Ben Ali, mais les structures d'État de la dictature, elles sont toujours là, et on promet aux gens des élections dans 6 mois, pour les calmer, quoi, pour leur dire bon, vous attendez dans 6 mois, vous allez pouvoir voter, et pour l'instant calmez-vous, surtout mettez de côté aussi toutes les revendications qui ont trait au social, les revendications qui portent sur les questions du chômage, y compris d'ailleurs sur les questions de liberté. Si on prend l'Égypte, c'est encore plus flagrant, puisqu'en fait, Moubarak est parti, mais ça reste l'appareil militaire dont lui-même est issu, qui a le pouvoir, et qui, le premier truc qu'elle a dit, c'est que son but, ce serait de mettre fin aux grèves et aux désordres. Et c'est des tentatives, je crois qu'on va pouvoir assister aux tentatives de toute la bourgeoisie locale et mondiale pour essayer de réprimer, d'arrêter le mouvement révolutionnaire. Un peu avant le départ de Moubarak, les États-Unis ont une très très forte activité diplomatique pour essayer de constituer un gouvernement de transition. Ils avaient compris que Moubarak, de toute façon, c'était fini, y compris de discuter avec les frères musulmans, avec tous les partis bourgeois, qu'ils soient membres des régimes en place ou pas, pour maintenir l'essentiel. Pour l'instant,
que surtout il n'y ait pas tout qui soit détruit et que la bourgeoisie reste bien en place et que voilà quoi. Donc
oui, c'est ça. C'est qu'en fait, pour les bourgeois, qu'on change, que Ben Ali parte. Bon, la bourgeoisie française est particulièrement conne parce qu'elle le soutenait bec et ongle encore presque une heure avant son départ.
C'est ça.
Ou que Moubarak soit plus là. Bon, les gens, ça se change, y compris à la tête d'un État. C'est pas. Alors, ça gêne quand même un peu, puisque c'est la population qui les met dehors. Hein.
C'est
toujours
ça, ouais.
Un peu gênant, puisque ça montre au peuple, et en particulier aux ouvriers, qu'ils ont une certaine puissance quand ils protestent. Mais c'est surtout, maintenant, pour eux, c'est essayer de conserver l'appareil d'État et de conserver surtout le système capitaliste. Et je pense qu'ils vont essayer tous les moyens possibles, le côté un peu gentil, attendez les élections, tout ira bien après, et si ça suffit pas, je sais qu'il y a pas mal de d'illusions hein, qui peuvent parfois encore exister en Tunisie vis-à-vis de l'armée, par exemple, et même peut-être en Égypte,
oui.
puisqu'elle n'a pas tiré. Mais l'armée, par définition, c'est un des organes principaux de répression au service de l'État bourgeois contre la population.
C'est ça, donc ça va être, on vous promet des élections, mais calmez-vous, et puis sinon, ben, on vous tire dessus, et puis vous allez vous calmer très très vite, quoi. Faut que l'appareil d'État, il reste quand même en place, quoi, que le capitalisme reste en place et tout ça.
Oui, oui, avec, alors ça veut pas dire qu'ils le feront forcément très rapidement, parce qu'il y a aussi des craintes, hein, c'est que parfois, toujours dans ces moments-là, la répression, elle peut ne servir à rien.
Oui.
Donc ils font très attention, ils sont à mon avis très inquiets au niveau de la bourgeoisie, qu'elle soit locale ou internationale. Et par contre, je pense que ce qui manque clairement, mais pas que là-bas, hein, même en France, même ailleurs, c'est une organisation ouvrière locale et internationale qui est capable de contrecarrer les plans de la bourgeoisie, d'avancer son programme, d'avancer ses revendications. Bref, d'avancer, ce qui a manqué en Iran en 79, hein, puisqu'on a, on en a parlé un peu tout à l'heure, et qui fait que bah, la bourgeoisie, elle a pris comme carte, elle a joué une carte pour rester en place, c'était celui du régime islamique, du Hezbollah et de Khomeini.
Mais à contrario, on pourrait aussi se dire que, par exemple, en Égypte, c'est aussi très intéressant que cette volonté là de se réorganiser à la base, quoi. C'est-à-dire que les syndicats, apparemment c'est des syndicats assez corporatistes, le système syndical en Égypte, ils sont complètement discrédités, ils étaient complètement liés à l'État qui s'effondre de tous les côtés, et donc il faut tout reconstruire, et il faut tout reconstruire à la base de sa part de chaque usine. Et c'est peut-être un désordre qui est porteur de plein de choses, quoi. Et surtout quand l'État, il en vient à se résumer à la force de l'armée.
Ouais, oui, oui, non, mais on sent, hein, il y a vraiment un mouvement de masse important qui, en particulier dans la classe ouvrière de ces pays-là. Et je pense que surtout, là, les mouvements en Tunisie, en Égypte, ils mettent aussi fin un peu au mythe tiers-mondiste ici, nationaliste là-bas, qui dit que bon, dans ces pays-là, quand on est au sud de la Méditerranée, on peut pas avancer le même genre de revendications qu'au nord. Il y a tout des discours comme ça qui existent, y compris dans la gauche et puis dans l'extrême gauche, qu'il faut aller par petite étape, par étape. L'Égypte et la Tunisie, au niveau social, et puis la plupart des autres pays de cette région sont modernes. Je veux dire, il y a une classe ouvrière moderne, on sent que l'aspiration à la liberté, à l'égalité, il existe là-bas comme il existe au nord de la Méditerranée, comme il existe ailleurs, quoi. C'est pas un truc spécifique à tel ou tel pays ou à telle ou telle région.
Et même par rapport à, pardon, je te coupe, mais par rapport à cet exemple de, oui, des choses qui basculent et du surgissement comme ça d'une crise révolutionnaire, il y a quelque chose qui était assez intéressant, c'est sur les émeutes du logement en Algérie. Quand tu regardes la presse, donc c'est la presse, on pourrait dire la presse bourgeoise, la presse courante, qui rend compte de ça en Algérie, en fait, elle est beaucoup plus libre.
Par rapport en France.
Par rapport à comment la presse française, elle rencontre des problèmes populaires, des classes populaires et tout, quoi. C'est-à-dire quand il y a une émeute du logement en Algérie, il y a des journalistes qui vont voir les gens et qui leur demandent pourquoi ils sont en révolte et en fait les gens leur sortent, leur racontent leur vie quotidienne et ça transparaît dans la presse. Alors on peut apprendre aussi, avec ces exemples-là, même à travers un biais comme ça, ça montre que les situations sont pas si éloignées et puis qu'il y a des choses aussi qui peuvent être renversées par rapport aux idées préconçues qu'on a, quoi.
Ce que je voulais dire aussi, par exemple tu parlais de l'Algérie, un élément qui a été assez intéressant quand il y a eu toutes ces émeutes sociales début d'année, c'est aussi que les islamistes, certains ont essayé de récupérer le mouvement, ils se sont fait casser la gueule par des jeunes ouvriers ou des jeunes chômeurs. Et Notre question, c'est que quand on parle d'égalité, enfin, sous le discours un peu tiers-mondiste ou relativiste culturel, tout ça tend aussi à dire que les femmes là-bas, de toute façon, elles peuvent pas accéder ou elles accéderont jamais à l'égalité comme en Europe parce que culturellement, il faut absolument que ce soit différent. Ce qu'on peut voir dans les images d'Égypte, d'Iran ou de Tunisie, par exemple, c'est quand même une place importante qu'ont joué les femmes dans le mouvement révolutionnaire et dans les manifestations insurrectionnelles. Et que en Tunisie, le 29 janvier, il y a eu une manifestation de femmes à Tunis assez importante pour l'égalité, pour que l'égalité homme-femme soit inscrite noir sur blanc dans la Constitution et pour la laïcité.
Mmh. Et ça, c'est un signe qui montre qui donne un indice sur la situation révolutionnaire, quoi. Quand la situation des femmes bouge, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qui bougent avant et autour et avec ça, quoi.
On l'avait beaucoup vu en Iran en 2009, où les femmes étaient vraiment étaient massivement dans les manifestations et même massivement dans l'affrontement avec les forces de répression. Bon, la photo qui a fait le tour du monde, la vidéo qui a été vue, c'est la mort de Neda, mais c'est une jeune femme qui a été tuée par les forces de répression et qui est devenue un peu l'icône du mouvement en 2009. Le symbole, je dirais, du mouvement révolutionnaire, c'est elles étaient et elles sont encore, elles étaient encore mardi dernier au premier rang dans la protestation contre un régime qui se base en fait sur un apartheid sexuel. Et même en Égypte, qui est un pays qu'on décrit généralement comme plutôt conservateur et tout ça, elles ont été massivement présentes dans les mobilisations, y compris dans l'affrontement avec les flics, quoi. كلنا ايد واحدة طلبنا حاجة واحدة ارحل 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 كلنا ايد واحدة طلبنا حاجة واحدة ارحل 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 كل يقول يا جماعة كلنا ايد واحدة طلبنا حاجة واحدة ارحل 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 ارحل
يسقط حسني مبارك الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام هو يمشي مش هيمشي طب هو يمشي مش هيمشي
Nous sommes des menteurs.
Vous écoutez Fort et Relu à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord noir.
Toujours avec Pascal, donc on continue de parler de ce qui se passe en ce moment.
Voilà, Pascal, quelle perspective tu vois dans ce qui se passe en ce moment? Alors, dernière nouvelle aussi au 17 février, c'est-à-dire hier le 16, à Mahala, dans le delta du Nil, dans le textile, il y a 20 000 grévistes. L'usine, la méga usine de filature et de tissage. Et il y a des grèves partout en Égypte, quoi. Ça, c'est même impossible à répertorier tellement... dans chaque lieu de travail, la contestation est installée.
Bah, pour conclure, hein, ou pour finir dans ce que tu viens de dire, hein, c'est que Moubarak est parti le 11, quelques jours après, où les militaires avaient promis de remettre un peu l'ordre par rapport aux grévistes, espérant que la population se calme. Bah, on voit que le mouvement il continue, qu'il s'enracine. Ils s'enracinent en particulier dans les lieux de travail et dans la classe ouvrière. Mmh. Et du coup, les perspectives, elles sont assez intéressantes, même passionnantes, puisque on sait que ça s'étend aussi au niveau géographique. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Mmh. Et je pense qu'on peut... Pendant des années, on nous a toujours balancé que, bon, maintenant, les révolutions, c'était fini. Le mur de Berlin était tombé. Donc, bon, ils ont dit que la lutte de classe, c'était fini. Bon, il y avait des grèves, donc, il y avait quand même un peu de lutte de classe. Mais bon, c'était fini l'époque des révolutions, c'était...
Même l'histoire était finie.
L'histoire était finie. on nous appelait révolution des trucs comme les révolutions colorées en Géorgie et en Ukraine, où c'était vraiment un truc, en deux jours, tout était bouclé. C'était pas profondément ancré dans la société, c'était en fait une bande de la mafia qui remplaçait une autre bande de la mafia.
Avec l'aide de la CIA.
Et là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus radical, qui touche vraiment tous les secteurs, je dirais, exploités de la société ou opprimés. En secteur exploité, je pensais, bon, la classe ouvrière, par exemple, est opprimée, le mouvement des femmes, des choses comme ça, et qui peut amener, qui remet à l'ordre du jour, je pense, la question de la révolution, et ça, pas seulement dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, mais y compris dans les pays d'Europe. Mmh. Ou d'Amérique.
Alors la meilleure chose à faire pour aller dans ce sens, c'est d'avoir des revendications ici et de s'organiser là où on est, quoi.
Oui, tout à fait.
C'est de faire pareil ici, quoi.
C'est ça.
Oui. Mais je pense qu'il y a des échos. Alors surtout qu'en plus le Maghreb et la France, on est très liés historiquement.
Oui.
Bon, il y a eu tout le poids du colonialisme qu'on a revu avec Alio Marie, sur la Tunisie, mais aussi tous les liens affectifs, familiaux et autres qu'il y a dans le monde du travail, dans la classe ouvrière, chez les salariés, les employés, les chômeurs, d'avoir de la famille au Maghreb en particulier, c'est normal, y compris d'ailleurs des gens d'origine gauloise, entre guillemets, qui sont mariés ou qui vivent avec une fille d'origine algérienne. Il y a des liens forts, je dirais, dans le monde du travail, entre le nord et le sud de la Méditerranée, entre la France, en particulier l'Algérie, mais plus largement le Maghreb. Et cette idée de révolution qui apparaît clairement, qui est là, au sud de la Méditerranée, il va aussi arriver, elle est déjà là, cette idée de révolution au nord. On a vu qu'il y avait des émeutes en Albanie, mais on peut se souvenir aussi des mouvements très durs qu'il y avait eu en Grèce et ailleurs. Je pense que la recherche d'une perspective pour vivre mieux, pour en finir avec l'exploitation, pour en finir avec l'oppression, la société de classe, bon, en gros pour aller vers le socialisme, c'est une aspiration universelle, et la révolution, c'est le moyen le plus simple pour y arriver, le seul moyen pour y arriver.
C'est le seul, oui.
Alors, ça commence par quoi, Pascal?
Non, il a, je crois pas qu'il ait de recette là tout de suite. Il y a une date, il y a un rendez-vous à nous fixer.
demain, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Mais lundi à 13h30.
À 13h30, bon, bah, tu rameutes du monde aussi de ton côté, parce que je crois que Radio Péril 203, ce sera peut-être pas assez, mais non, on mais a Fabrice et la technique qui viendra aussi.
Malheureusement, pas de recette, hein.
Bah non. C'est... Mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça pète ici aussi, et il y a plus tard, comme on dit, n'est-ce pas?
Ah, je pense que les révolutionnaires, mais ça se voit en Tunisie, en Égypte, mais ça s'est toujours vu, c'est jamais les révolutionnaires qui appuient sur un bouton et qui font qu'il y ait une révolution.
Ouais.
Il y a un moment où ça explose, je me souviens de mes lectures que dans une de ses lettres, je crois en 1915, Lénine, il doit écrire un truc déprimant en disant « bon ben, je me suis fait à l'idée que je verrai jamais une révolution ». Et en fait, il y a un moment où ça, pour la population... ça devient insupportable et il y a une et ça explose et qu'après le rôle des révolutionnaires c'est pas d'appuyer sur le bouton mais c'est plutôt c'est essayer de donner des perspectives pendant les mouvements pour qu'ils aillent le plus loin possible pour qu'ils se fassent pas récupérer par voilà, des factions de la bourgeoisie qu'ils se fassent voilà mais le bouton c'est à la limite c'est le capitalisme qui appuie dessus sans faire exprès c'est pas nous
ouais c'est ça mais alors justement moi j'avais cette question là aussi avec toute cette révolte, ces révolutions qu'il y a dans les pays du Maghreb comme ça, est-ce que ça peut être récupéré? Est-ce que ça sera forcément récupéré? Est-ce qu'on peut sentir ça déjà ou on peut pas faire de plan sur la comète comme ça?
Ce que j'ai essayé de dire, je crois que la bourgeoisie, ces différentes fractions vont essayer tout pour calmer, donc y compris de récupérer, que ce soit par les réactionnaires type barbus ou que ce soit par des sociodémocrates un peu mieux rasés, ils vont essayer. De toute façon, ils ont toujours fait ça. Oui. Notre histoire, elle est malheureusement riche de révolutions qui ont été trahies, trompées, récupérées et puis réprimées. Après, je lis pas dans le marc de café.
Oui, c'est pour ça.
Voilà, et je pense qu'il faut qu'on avance sur nos perspectives de changement de société partout où on est, qu'on se batte, qu'on lâche rien, qu'on essaye d'avancer, de construire une alternative et tout ça. Ni le pire ni le meilleur sont jamais assurés, quoi.
C'est clair.
C'est toujours en lutte, en fait. On va conclure.
Oui. N'est-ce pas?
Donc, on a écouté aujourd'hui dans la bande-son du hip-hop de Libye, qui vient d'une compilation de hip-hop de lutte du nord de l'Afrique, un extrait d'un concert Place Tahrir occupé, avec aussi la voix d'une manifestante tunisienne.
C'est Amel Nawad?
Non, c'était Rami et Sam.
Bon, d'accord.
Ouais, Place Tahrir. Et on écoutera l'international en se quittant.
Ça peut c'est être... ça. Donc, merci Pascal, beaucoup. Quand tu veux, on se refait une émission sur plein d'autres choses et d'autres pays et tout ce qu'on veut. Donc, merci encore Pascal, merci Fab à la technique. Et donc, à dans 15 jours. Et vive l'international.
Merci, au revoir.
À bientôt. We'll be right back.
Bye-bye.